Okapi Action, à la rencontre de toutes les réalités du Congo, des régions et de la capitale. Okapi Action, pour en savoir plus avec nos spécialistes sur les droits humains, la santé, l'éducation, l'agriculture. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions et de vos commentaires. Okapi Action, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa.
Bonjour et bienvenue encore une fois dans ce nouveau numéro de Okapi Action. Okapi Action qui sera animé ce matin par Nathalie Muteba Bosenga.
J'ai eu de sérieux problèmes avec ma femme, mon épouse. Et elle m'a dit que, en tout cas, je suis en train de mentir, puisque j'ai constaté un manquant de 2000 francs congolais. Et vraiment, ce n'est pas bien pour un pays qui tend vers la démocratie.
Les enseignants de l'ISP se plaignent. Lors de la dernière paie du mois d'octobre effectuée mercredi dernier, eh bien, certains d'entre eux ont accusé des déficits dans leur salaire. À la base de ces déficits, des billets manquants dans les liasses de coupures de banque qu'ils ont reçus. Nous allons en parler en long et en large ce matin avec nos confrères de Mbandakia, particulièrement Dominique Welombi, qui s'est penché sur la question des billets manquants dans les liasses. Qu'est-ce qui se passe exactement? En fait, comment se passe le circuit bancaire? Nous allons en parler aujourd'hui dans Okapi Action avec un autre invité qui sera sûrement un spécialiste dans les finances. Pierrot et la Meji, Betoabou,
Nathalie.
Maluka et Tatouane.
Tout est bien, Bandambo, Mouéwa.
Lélu, tout est Moutikapa. Kwa kwa kula mambo à chanvre. Alors, on va parler chanvre qui prend de l'ampleur de plus en plus à Tshikapa. Pierrot, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu, en deux, trois petits mots, de quoi il s'agit exactement?
Nathalie, j'ai séjourné dernièrement à Tshikapa où on se rend compte que la consommation du chanvre est en train de prendre de l'ampleur dans cette ville diamantifère. Alors, on se rend compte que beaucoup de gens consomment de plus en plus du chanvre à Tshikapa. Voilà, c'est autour de ça que nous allons essayer de nous étendre ce matin, Nathalie.
Alors, on vous retrouve tout à l'heure, Pierrot et la Mèche. Comme on dit, « netumonangana », c'est cela, n'est-ce pas?
Ah, « netumonangana », nous connaissons pas.
Eh bien, on s'essaye, n'est-ce pas?
Ok, c'est bien comme ça, courage.
Et nous quittons donc Tshikapa pour revenir ici à Kinshasa pour parler de lancement de la campagne de désinfection des fermes porcines à Kimbantseke le week-end dernier par l'ONG Mbongwana. Objectif, freiner les épizooties ou la peste qui ravage les porcs chaque année au retour de pluie, c'est-à-dire du mois d'octobre à mi-janvier, et qui cause ainsi d'énormes pertes en bêtes dans plusieurs cheptels de la capitale, aussi pour donner un élan aux éleveurs afin de les stimuler à procéder à la même opération régulièrement.
Je traverse la route moi-même.
Je m'appelle Clémentine. J'ai 8 ans, deuxième B.
Comment tu fais pour traverser?
Il faut demander quelqu'un qui te traverse.
Je m'appelle Souka Nèvre. Je suis à 3e A. Nous, les chauffeurs viennent nous accompagner jusqu'ici.
Par souci d'une bonne instruction ou par simple prestige, certains parents envoient leurs enfants dans des écoles éloignées de leur lieu de domicile. Pour y arriver, les jeunes enfants sont obligés d'emprunter soit des taxis, des bus ou taxibus, et aussi de traverser des grandes artères, ce qui ne les sécurise pas toujours. Ils sont ainsi souvent victimes d'accidents de circulation, renversés par un véhicule par manque d'attention, ou bien pour avoir mal amorcé la traversée de l'avenue. Mais alors comment les écoles et même les parents s'y prennent pour assurer la sécurité de leurs jeunes enfants? Et bien, pour en parler, chers auditeurs, n'hésitez surtout pas à nous appeler au 081 070 20 50. Vous pouvez laisser vos SMS 081 070 20 50 ou encore appelez-nous carrément au 081 890 63 94. Vous nous suivez sur Internet, notre adresse email est le www.radiookapi.net, c'est notre site évidemment. Vous pouvez nous écrire à action@radiookapi.net.
Okapi Action. C'est malheureux, c'est un sabotage.
Donc ça devient une tricherie, ça devient une corruption.
Des conseils pratiques, des solutions à vos préoccupations.
Ils ont des moyens très limités.
En tout cas, c'est appréciable.
Non, le problème ne réside pas à ce niveau-là, madame. Mademoiselle.
Okapi Action, du lundi au vendredi de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Nathalie Muteba.
Bonjour, Mbote, Mbote Nabeno, Betoabou. Voilà, je vous ai dit bonjour à vous tous, chers auditeurs qui nous suivez chaque jour sur Radio Okapi et fidèles à notre rendez-vous de 9h à 11h au Okapi Action. Au micro ce matin, Nathalie Muteba Businga, à la mise en onde, Paulin Minkew, et bien sûr à la réalisation, Jodine Kachama. Et notre standardiste chaque jour, c'est Arlette Mbouye qui s'éveille ça. Aujourd'hui, le 14 novembre 2006, le monde entier célèbre la journée mondiale du diabète. À ce jour, une personne dans le monde meurt du diabète toutes les 10 secondes. 189 millions, c'est le chiffre donné par la Fédération internationale du diabète. Donc 189 millions de personnes dans le monde sont atteintes du diabète. La Fédération internationale du diabète estime que le nombre de ces personnes atteintes de diabète va augmenter et atteindre les 350 millions d'ici 2025. 80% de ces personnes sont issues des pays en voie de développement, car contrairement aux idées reçues, le diabète ne concerne pas uniquement les personnes vivant dans l'aisance. Aujourd'hui, la journée mondiale du diabète est axée sur l'aide à apporter aux communautés ayant difficilement accès aux soins. Qu'en est-il pour la République démocratique du Congo? Où en sommes-nous aujourd'hui? Pour en parler, nous avons en ligne le ministre de la Santé, M. Zachary Kachogwe. Bonjour, M. le ministre.
Bonjour.
Monsieur le ministre, le monde entier célèbre ce matin, aujourd'hui voulais-je dire, la journée mondiale du diabète. Selon les chiffres en notre possession, 80% des personnes atteintes de cette maladie sont issues des pays en voie de développement. Qu'en est-il de la République démocratique du Congo?
Oui, la République démocratique du Congo n'échappe pas à la règle. Bien que les données exhaustives ne soient pas disponibles, nous pouvons estimer effectivement que plus de 2/3 des patients qui fréquentent nos centres de santé sont dans la catégorie des démunis.
Mmh. Oui.
J'estime aujourd'hui, en fonction de ceux qui ont été dépistés dans le centre de santé, autour de 600 000. Mais on sait que ce nombre est beaucoup plus grand, parce que plusieurs, soit qui passent par les centres de santé privés, qui ne communiquent pas les chiffres, soit qui sont soignés par la médecine traditionnelle. Mmh. Et donc, les 600 000 répertoriés par le programme, c'est certainement bien, bien en dessous de la réalité.
Ok. Alors, qu'est-ce qui est fait au niveau de l'État pour la prise en charge, justement, de ces personnes qui sont atteintes du diabète dans notre pays?
Le gouvernement a organisé d'abord une direction spécialisée qui s'appelle le Programme national de lutte contre le diabète. C'est un programme donc spécialisé du ministère de la Santé. Ce programme travaille avec les provinces, où les mêmes structures sont répliquées jusqu'au niveau des formations médicales. Le problème que nous avons, c'est d'abord l'accessibilité aux soins, parce que les soins pour le diabète sucré sont payants. Et comme nous l'avons dit, ce sont des démunis qui doivent se payer le médicament, qui doivent se payer les examens de contrôle. C'est déjà un handicap. Dans certaines provinces, ils ont réussi à créer une prise en charge à base communautaire, notamment à Kinshasa, avec une des religieuses qui s'en occupe. Et ils ont un réseau qui permet de réduire les charges du diabétique. C'est la même chose aussi dans d'autres provinces, notamment au sud du Kivu.
Pourquoi laisser cette charge uniquement au réseau communautaire? Pourquoi le gouvernement ne s'implique-t-il pas lui-même? Parce que vous l'avez bien dit, aujourd'hui l'accès aux soins est devenu un réel problème parce que peut-être ça coûte cher, parce qu'un diabétique a un certain régime à suivre. Pourquoi le gouvernement ne s'implique-t-il pas lui-même?
Ah oui, je pense que là vous posez une bonne question. En fait, le diabète est un fait de société.
Oui.
Parce que au-delà du simple médicament, il y a ce mode de vie, il y a ce mode de manger. Et vous connaissez les difficultés auxquelles notre gouvernement est confronté depuis 10 ans avec le système d'instabilité. Le revenu par habitant, que vous connaissez, est très bas.
Oui.
Un diabétique qui ne sait pas manger ne sait même pas suivre son traitement.
Tout à fait. Alors, monsieur le ministre, à vous entendre, le tableau semble bien sombre, mais peut-on espérer que peut-être il y a une lumière qui apparaîtra au loin?
Oui, 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 justement. Il est sombre, mais je crois que le tableau est plutôt à trait de s'éclairer, comme je l'ai dit. Pourquoi nous favorisons les politiques de soins à base communautaire? Parce qu'on atteint d'abord une communauté plus large, on sensibilise la communauté. Dans la communauté, nous formons les animateurs sociaux pour sensibiliser d'autres, ce qui nous permet de mobiliser les gens à temps pour qu'ils puissent rejoindre les centres de santé. Deuxième élément, au niveau des centres de santé, vous savez qu'il existe pour les maladies chroniques ce qu'on appelle un ticket modérateur. C'est-à-dire qu'il ne paye pas, comme tout le monde, il paye des petits frais. Et qui peut quand même permettre un accès aux soins. Et troisième possibilité, c'est la centrale d'achat de médicaments. C'est une politique qui vient de commencer, comme vous le savez, depuis quelques années dans notre pays. Avec ce système d'achat centralisé, on peut alors accéder aux médicaments contre le diabète de manière... si vous voulez, sponsoriser ou par l'État. Alors, ça accroît encore l'accessibilité à un coût très, très faible.
J'espère que tous ceux-là qui vous ont suivi ce matin et qui sont victimes de cette maladie ont peut-être un regain d'espoir au fond d'eux-mêmes en vous entendant. Je rappelle que vous êtes le ministre de la Santé, Zachary Kachogwe. Vous intervenez en direct sur Radio Okapi. Merci, au revoir.
Merci, madame.
Sur 103,5.
Voilà, nous revenons au studio encore une fois pour poursuivre sur notre lancée. Nous avons bien démarré cette journée. Je rappelle que vous êtes branchés sur Radio Okapi, émettant de Kinshasa sur la 103.5. En ce studio, je reçois une jeune dame que vous connaissez bien, que vous avez appris à apprécier. Il s'agit de Belinda Bosuma. Bonjour Belinda.
Bonjour Nathalie, bonjour fidèles auditeurs de la Radio Okapi.
Alors Belinda, à Kinshasa, les écoliers dont les établissements scolaires se situent le long de grandes artères de la ville sont souvent exposés aux accidents et autres tracasseries. Par souci d'une bonne instruction ou par simple prestige, certains parents envoient leurs enfants dans des écoles éloignées de leur lieu de domicile. Pour y arriver, les jeunes enfants sont obligés d'emprunter soit des taxibus, des bus et aussi de traverser des grandes artères, ce qui ne les sécurise pas toujours, n'est-ce pas? Alors, ils sont ainsi souvent victimes d'accidents de circulation, renversés par un véhicule, par manque d'attention ou bien pour avoir mal amorcer la traversée de l'avenue. Alors comment les écoles et même les parents s'y prennent pour assurer la sécurité de leurs jeunes enfants? Alors Belinda, dites-nous à tous les auditeurs de la fréquence de la paix, alors quelles sont les dispositions, vous pouvez me le dire, prises par les écoles, particulièrement celles qui sont situées le long des grandes artères, pour sécuriser les écoliers?
Bon, Nathalie, disons que cela dépend de l'organisation et des moyens dont dispose une école à une autre. C'est-à-dire qu'il y a ces écoles qui ont jugé mieux de faire appel à la police pour sécuriser les entrées et les sorties des élèves. Comme c'est le cas du groupe scolaire Aurore, situé sur l'avenue Colonel Mondjiba, qui n'est autre que le prolongement du boulevard du 30 juin à Kintambo. Suivant ce propos, M. Pierre Kazadi, coordonnateur pédagogique du groupe scolaire Aurore.
Ils sont en nombre de 3 parce qu'il y a d'abord l'avenue Komoriko qui vient se jeter dans l'avenue Colonel Mondjiba qui est en fait le prolongement du boulevard du 30 juin. Il faut un policier ici au coin, mais il faut un deuxième, ils sont 2 à ce niveau-ci. Il y en a un qui se place devant l'avenue qui conduit vers les écoles voisines, à savoir les Lupio et les Mickey. Et un quatrième d'ailleurs qui se place après l'avenue qui conduit vers les Mickey. Ils sont là le matin à partir de 7h30 à 8h, puisque c'est là à l'heure d'entrée. On sait qu'il y en a qui sont retardataires, donc il faut quand même permettre à tout le monde de traverser sans trop de problèmes. À la sortie, ils sont là déjà à partir de 12h, parce que la maternelle termine ses cours à 12h30. Ils vont jusqu'à 14h.
Avez-vous déjà connu des cas d'accident?
À ma connaissance, non, parce que depuis que je suis là, je n'en ai jamais connu. Mais il y aurait eu un cas pareil il y a quelques années. Bon, l'école a aujourd'hui une trentaine d'années.
Ça fait combien de temps que vous travaillez avec la police?
C'est depuis que l'école existe ici. On a pris cette précaution pour justement éviter des accidents.
Voilà, chers auditeurs, vous nous suivez en ce moment, vous êtes dans votre voiture, vous êtes dans vos bureaux, à Saint-Raphaël par exemple, vous nous suivez tous les jours, vous êtes fidèles au Capi Action, vous êtes partout dans les marchés, eh bien n'hésitez surtout pas, vous avez des questions à poser, nous avons un invité sur ce plateau, un spécialiste de la prévention routière, il est là pour vous parler de ce problème aussi. Alors, appelez déjà au 081 070 2050, où vous pouvez laisser poser vos questions sur SMS, ou encore appeler au 081 890 63 94. Belinda, je reviens à vous, ce n'est pas tout le monde, hein, n'est-ce pas, qui a ces possibilités, qu'a le groupe scolaire Aurore, par exemple, et surtout que c'est une école privée. Mais que font d'autres établissements officiels, par exemple?
Nathalie, c'est vrai que toutes les écoles n'ont pas les mêmes possibilités. Elles se débrouillent tant bien que mal et sont souvent exposées aux accidents de circulation. C'est le cas, par exemple, de l'école primaire Sainte-Marie, qui est située sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, non loin de la cathédrale Notre-Dame du Congo. On écoute M. Sylvain Mabella, directeur adjoint de l'EP1 Sainte-Marie.
Chaque jour, il y a deux enseignants qui sont chargés pour la traversée des élèves. Pour la plupart des élèves viennent de Lingwala, de Camp Kokolo. Nous avons des panneaux indicateurs sur lesquels on a marqué stop. Il y a deux enseignants, l'un en amont, l'autre en aval, qui forment un corridor. C'est dans ce corridor que les enfants traversent et les voitures s'arrêtent de part et d'autre.
Vous avez déjà connu des cas d'accident?
Nous avons connu 3 cas l'année passée. Cette année, on a connu 2 cas. Au moment où je vous parle, la sœur et sa petite sœur sont à l'hôpital. Elles sont en train d'être soignées. Elles voulaient traverser. Elles ont été fauchées par une voiture. Mais nous demandons quand même aux autorités, comme je vois dans certaines écoles, on a mis quelques policiers de roulage là-bas qui sont à permanence pour surveiller la sortie et les entrées des élèves. Je demande qu'on prenne des dispositions pour nous aider dans ce sens-là. Des policiers peuvent être postés ici devant l'école afin de surveiller la sortie et l'entrée des enfants pour éviter les cas d'accident.
Pour éviter les cas d'accident, comme vient de le dire M. Sylvain Mabella, mais et les élèves eux-mêmes, Belinda, je suis sûre que vous les avez rencontrés, comment faut-il pour traverser la route?
Oui, Nathalie, nous avons rencontré quelques élèves de l'école primaire qui sont toujours accompagnés et d'autres qui viennent seuls pour traverser. Ils demandent aux grandes personnes qui sont présentes sur les lieux de les aider à traverser. On les écoute.
Je m'appelle Esther, 8 ans.
Tu es en quelle année?
2e primaire. Je traverse la route moi-même.
Tu vas seule à l'école?
Oui. Je demande à ce que nous aider à traverser la route.
Je m'appelle Clémentine. J'ai 8 ans, 2e B.
Comment tu fais pour traverser?
Il faut demander quelqu'un qui te traverse.
Je m'appelle Soukanev, je suis à 3e A. Nous, les chauffeurs viennent nous accompagner jusqu'ici. Après, on touche avec ma grande sœur, on traverse.
Je m'appelle Méridien, 3e B. Je viens seul. Je demande à une grande personne.
Voilà, donc on a suivi. Il y en a qui demandent aux grandes personnes de les aider à traverser l'avenue. Et l'autre qui dit que c'est leur chauffeur
qui vient les déposer
et puis qui les aide à traverser. Mais Belinda et les parents et eux-mêmes, pourquoi certains d'entre eux préfèrent inscrire leurs enfants à des longues distances de la maison et comment s'y prennent-ils pour sécuriser leurs enfants quand on sait qu'aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, par exemple, les écoles s'appellent presque à tous les coins de rue. Hein.
Oui, Nathalie, certains affirment que c'est la formation qui importe, quelle que soit la distance. D'autres encore soutiennent le choix de l'enfant, c'est-à-dire là où l'enfant est mieux et le parent doit accepter. Nous avons rencontré des parents venus chercher leurs enfants à l'école, disant qu'ils ne peuvent pas laisser leurs enfants venir ou rentrer seuls pour plusieurs raisons. Suivant.
D'abord, je reste loin de l'emplacement de l'école. Je suis à la Cité Verte. Comme il n'y a pas de transport organisé à la matière, alors j'y viens les déposer le matin et je les ramène après le cours. Pour la sécurité de l'enfant, eh bien, je prends mes responsabilités.
Pourquoi? Vous habitez Cité Verte, c'est quand même loin. Pourquoi avoir inscrit les enfants très loin de la maison?
Bon, c'est la qualité de la formation dans le monde actuel. Ce qu'on peut laisser comme héritage aux enfants, c'est la formation. Donc, on a choisi une école de qualité et c'est pourquoi on fait des sacrifices pour cela. Il y a aussi le choix de l'enfant, puisqu'un enfant aussi étudie bien quand il est dans une école qu'il préfère.
Mais on a dans la classe parce qu'ils ont l'habitude d'être dans la voiture.
Mais pourquoi on a dit qu'on 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 a
Tout autour des enfants délinquants qui viennent ravir le plus souvent nos enfants, les sacs, tout ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est intéressant. Des fois même les habits, les kétchers sont souvent ravis par les chégués qui se promènent tout autour de cette école. Nous venons aussi prendre les enfants parce que il y en a qui ne sont pas à un âge où on peut les laisser seuls rentrer à la maison.
Il me semble que c'était la semaine passée, nous avons réalisé un sujet avec les enfants de la maternelle à Mbandaka qui étaient renvoyés parce que les parents n'étaient pas en mesure de payer les frais scolaires, ce qui était très dangereux parce que les responsables des écoles laissaient partir les enfants de la maternelle. C'est quand même fort. Alors réagissez, chers auditeurs, à ce sujet. Vous nous suivez sur Internet, notre adresse action@radioukapi.net. Vous pouvez nous écrire à cette adresse ou encore appeler au 081 890 63 94 ou encore envoyer vos SMS au 081 070 20 50. Belinda, je crois qu'on va peut-être arrêter là avec vous, mais que pouvons-nous retenir dans tout ça?
Bon, juste pour signaler qu'il faut dire qu'il y a plusieurs écoles qui sont dans la même situation que l'école primaire Sainte-Marie, qui demandent vraiment une solution à l'immédiat, sinon c'est la vie des écoliers qui est en danger.
Belinda Bosuma, merci.
Merci Nathalie.
Machozi yango yote namalizika. Mie nitalala na nani, we unaenda. Mie paka ni mawazo, mie paka ni kuwaza waza, we unaenda, naenda. Kama ile njia ya korenda, kama ni maisha ya kufata, we dada, welo, 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 welo. Paka ni mawazo, apo nani achango, kama we unaenda, we unaenda, we unaenda.
Merci. C'était la du Papa Wemba, n'est-ce pas, hein, jeudi Kachama. Bon, je ne connais pas bien le titre, mais bon, une musique douce pour, n'est-ce pas, nous aussi, Monsieur Valminga. Monsieur Valminga, qui est, n'est-ce pas, dans la prévention routière. Hein. Bonjour.
Bonjour.
Je sais que ce n'est pas la première fois que vous êtes invité dans nos studios. Vous êtes passé plusieurs fois pour parler de problèmes liés à la prévention routière. Mais peut-on parler de la sécurité des écoliers comme d'un problème de la prévention routière?
Merci Maman Nathalie, merci auditeurs de la radio de la paix et surtout de la radio de la sécurité routière. Nous remercions Okapi pour cette occasion qu'elle ne cesse de pouvoir nous donner. En fait, la problématique de la sécurité routière au niveau des écoles, au niveau des écoliers, au niveau des étudiants, au niveau des élèves, n'est pas une matière nouvelle pour la Commission nationale des préventions routières. Pour la petite histoire, Maman Nathalie, vous devez savoir que la sécurité routière, c'est dans les prérogatives de l'État congolais. Et ces prérogatives sont exercées par la Commission nationale des préventions routières. En 1969, je crois que vous allez vous en douter, il était déjà question de pouvoir trouver les voies et moyens comment sécuriser les enfants. J'ai ici devant moi une lettre, je citerai le ministre Cardozo, Mario Cardozo, qui s'adressait à tous les préfets, à tous les directeurs des écoles qui longent les grandes artères de la ville de Kinshasa et pour ne pas parler des grandes artères dans le pays. En fait, dans cette lettre circulaire du 9 juillet 69 déjà, l'État congolais, c'est-à-dire le ministre de l'Éducation, demandait beaucoup plus de sécurité aux enfants. Et ça, c'était pendant les manifestations officielles, c'est-à-dire politiques. Mais ici, grâce à ça, il avait prévu un certain nombre de mesures, dont notamment tracer les passages pour piétons sur toutes les grandes artères de la ville de Kinshasa d'abord, et puis des grandes villes du pays, et voire même au niveau des agglomérations de notre pays. À part le traçage de marques routières, donc pour faire passer les piétons, il avait en ce moment-là demandé à ce qu'on puisse installer ou encore implanter des panneaux de signalisation. Et également faire même des barrières et voire même ériger des dos-dames, c'est-à-dire surmonter un peu la chaussée pour que les véhicules puissent freiner aux approches des écoles. En fait, de tout cela, la Commission nationale des préventions routières, qui est née pratiquement du Code de la route en 78, s'y référant sur tout cela, a bien voulu donner la sécurité à tous les enfants du Congo, c'est-à-dire à tous les écoliers. Mais comme aujourd'hui nous parlons de la sécurité des écoliers dans la ville de Kinshasa, eh bien, il y a tout un manuel, c'est-à-dire qui est mis à la disposition des parents, mis à la disposition des élèves, même des étudiants, qui peuvent lire comment se sécuriser soi-même d'abord, connaître la théorie, comment on se sécurise sur une voie publique. Et ce document a été introduit dans les enseignements, c'est-à-dire dans le programme national de l'éducation.
Monsieur Valminga, je ne voudrais pas vous couper. Vous savez, je suis surprise que vous parlez de ce manuel, parce que moi, depuis que j'ai fait l'école, j'ai fini, je suis allée à l'université, je n'ai jamais entendu parler de ce manuel.
Et vous êtes devant, je crois, Maman Nathalie, les auditeurs ne voient pas, mais vous êtes là. Vous voyez, c'est écrit le code
de la route de l'écolier.
Voilà.
À l'usage de l'enseignement primaire.
Voilà. Et normalement, toute personne, tout Congolais ou même étranger, qui étudie ou qui a l'occasion d'étudier en République démocratique du Congo, devait en principe avoir ce cours. C'est-à-dire, ce cours ici est programmé pour l'école primaire, l'école secondaire et voire même l'université. Nous avons, pour ceux qui... Et ce cours était introduit dans le cours de civisme.
Qui n'existe plus.
Voilà, justement. Et aujourd'hui, la Commission nationale des préventions routières, qui a ce manuel, a demandé à toute la République, c'est-à-dire à tous les responsables de l'éducation, de pouvoir réintroduire ce même cours dans le programme pour que les enfants puissent avoir ne serait-ce que l'information, comment traverser une chaussée, comment déchiffrer un tel panneau, ou encore que, en cas d'accident, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, la Commission nationale des préventions routières que nous présidons, en 2004, donc là, il y a de cela 2 ans, a fait l'inventaire pour la ville de Kinshasa. Au moins 634 écoles qui longent les grandes artères de la ville. Et ces 634 écoles gèrent au moins 200 800 élèves qui traversent, qui viennent, qui repartent, et c'est énorme. D'où nous, en ce qui nous concerne.
Mais est-ce que ces écoles ont ce manuel?
Ces écoles, nous avons fait, disons, diligence. Nous avions photocopié, contenu, puisqu'on imprime plus, c'est simple, il faut un peu d'argent. Mais nous avons envoyé dans toutes les écoles ce manuel afin que nos enfants ne puissent pas être surpris sur la chaussée ou encore être fauchés. Nous envoyons les enfants à l'école, c'est pour avoir, pour être instruits, et non pour aller trouvaient la mort sur la route.
Tout à fait.
Là, du moins du côté pédagogique, mm-hmm. la République dispose des documents mm-hmm. qui donnent des connaissances à quiconque qui étudie ou qui longe ou encore qui traverse la route afin de le faire en toute sécurité.
Oui. Mais alors, en me référant à la lettre de M. le ministre Cardozo, qui date de 1969, j'ai entendu dire qu'on a parlé des Dodanes et vous-même, vous avez répertorié plus de 600 écoles qui se trouvent le long des grandes artères. Je ne vais pas aller loin, je vais aller sur l'avenue de la Libération.
Oui.
On a au moins 3, 4, 5 écoles qui sont là. Et je ne vois toujours pas de Dodane. Au contraire, cette avenue est considérée un peu comme un boulevard où les gens roulent à tombeau ouvert. Si ce n'est qu'à l'heure où les élèves ou les écoliers sortent des écoles, vous sentez comme un embouteillage qui ralentit un peu la circulation et permet ainsi aux élèves de pouvoir traverser la route, malgré tout avec beaucoup de dangers. Mais M. Vaninga, qu'est-ce que vous avez fait exactement, puisque vous avez constaté que ces écoles n'ont pas ce manuel. Vous les avez photocopiées, vous leur avez donné, mais apparemment, ça n'a pas changé.
Merci beaucoup. C'est comme on dit, on donne un cours, mais ce n'est pas tout le monde qui peut mieux comprendre. Mais nous, à part la théorie, nous allons avec la pratique. Il est organisé, de temps en temps, avec la Croix-Rouge, des patrouilles scolaires, c'est-à-dire un système de ralentissement des vitesses de véhicules aux abords des écoles.
Mmh.
Et il y a également ce que nous appelons, nous, des panneaux qui indiquent les écoles. Tout chauffeur, tout conducteur, tout usager de la route, si en face de lui, il trouve un panneau avec deux enfants, ça signifie que il y a une école.
Mmh.
Et vous devez absolument, suivant la loi, donc le code de la route, vous devez ralentir. Ralentir parce qu'on ne sait pas. Un enfant peut faire irruption à tout moment,
n'importe quoi.
Surtout les petits-enfants de maternelle.
Mm-hmm.
Et là, il y a ce que nous appelons, nous, vous voyez peut-être au niveau de Kinshasa actuellement, il y a beaucoup de passages pour piétons que nous avons tracés pour justement faire passer ces enfants
mm-hmm.
qui sortent à midi ou encore mm-hmm. qui viennent de midi ou 17h, pendant toutes ces heures-là
mm-hmm.
où les enfants doivent entrer ou encore sortir.
Mm-hmm.
Et ce sont les moments les plus cruciaux
mm-hmm.
De la vie des écoliers, de la vie des étudiants. Et nous, en ce qui nous concerne, il y a aussi l'implantation, encore le jalonnement de la police spéciale de roulage
mm-hmm.
pour arriver à réguler le trafic dans ces endroits sensibles ou stratégiques où il y a un mouvement parfois incontrôlé des enfants sur la chaussée.
Monsieur Vaninga, vous avez parlé tout à l'heure d'un travail de collaboration avec la Croix-Rouge. C'est une très bonne chose. On a entendu dans le reportage réalisé par Belinda Bosuma que, par exemple, l'école Aurore, qui est une école privée, a son service, si je peux le dire ainsi, deux agents qui sont là uniquement pour veiller à ce que les enfants puissent traverser en toute sécurité. Mais ce qui n'est pas le cas pour la plupart des écoles, d'ailleurs, ceci rejoint la question de M. Marien Mubois, qui est de Bounia. Il dit, selon lui, il faudrait que l'autorité communale s'implique personnellement en affectant à la sortie de ces écoles les agents de la brigade routière. Il existe des agents de la brigade routière.
Effectivement.
Des policiers affectés à la prévention routière, si je peux le dire.
Oui.
Qu'est-ce que eux font? Pourquoi ne pas les affecter dans ces lieux où se trouvent les grandes écoles ou qui sont sous les grandes artères, permettre ainsi à ces enfants de pouvoir traverser en toute sécurité?
Merci, maman Nathalie. Je crois que dans toute chose, il y a une organisation. Je salue ici la bravoure du général Patrick Sabiti, qui aujourd'hui a mis avec le colonel Kaumba deux éléments qui sont formés. Et en fait, à l'époque, la ville de Kinshasa pensait que la police spéciale de roulage est là uniquement pour les carrefours ou encore pour les intersections. Non, la police spéciale de roulage est appelée avec la Commission nationale de prévention routière de sécuriser la population sur toutes les voies, c'est-à-dire sur toutes les parties de voies. Et aujourd'hui, c'est comme dit notre compatriote, effectivement, on voit de plus en plus la police spéciale de roulage, pas seulement dans les carrefours, mais même à des endroits sensibles, c'est-à-dire là où il y a par exemple les écoles, là où il y a la manifestation, là où par exemple il y a course cycliste.
Mm-hmm.
Donc, nous ne pouvons nous pouvons que nous réjouir. Au fur et à mesure, on est en train donc d'occuper le terrain pour que tout le monde soit sécurisé, tous ceux qui se déplacent sur la voie. Et effectivement, même les piétons, dont la plupart de nos enfants vont à l'école à pied, effectivement, nous y pensons justement pour sécuriser tous ces piétons-là. Et même demander, je crois dernièrement, je suis passé ici, j'ai demandé à tous les constructeurs de routes de pouvoir prévoir le trottoir. Mm-hmm. C'est-à-dire, il ne faut plus qu'il y ait des routes, des chaussées sans trottoir. Mm-hmm. Le trottoir est prévu justement pour sécuriser ceux qui marchent à pied. Mm-hmm. Nous tous, nous n'avons pas de véhicule, mais la route se partage. Il faudrait nécessairement...
Oui, mais les trottoirs aujourd'hui sont envahis par les véhicules. Quand il y a embouteillage, eh bien, les conducteurs de taxi, bus et autres, n'hésitent pas d'emprunter le trottoir pour pouvoir dépasser les autres véhicules et aller, puisque pour eux, le temps compte.
Effectivement, c'est une infraction terrible. Une chaussée est subdivisée. Il y a la chaussée, la couche de roulement pour le véhicule, il y a une partie pour les piétons, et voire même une partie pour les cyclistes, donc les pistes cyclables. Et il y a l'emprise, et il y a aussi le caniveau pour drainer les eaux. Donc un chauffeur est autorisé uniquement à rouler sur la partie qui lui est réservée, et sur la bande, ce n'est pas toute la route. Donc il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas de raison à un chauffeur de pouvoir, en cas d'embouteillage, de pouvoir chevaucher, par exemple, sur le trottoir. Non, là, c'est une infraction, on doit nécessairement l'arrêter.
Ce qui constitue évidemment un danger pour les piétons
et les élèves.
Enfants et les élèves en particulier. Monsieur Valmenga, peut-être nous allons conclure. Je sais que le sujet est très vaste et qu'on a beaucoup à dire là-dessus. Mais alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quelle est la solution que vous pouvez apporter? Parce qu'on a entendu dans le reportage qu'il y a par exemple le responsable d'une de ces écoles qui a demandé si on peut leur affecter des agents qui seront là en permanence pour assurer la sécurité de ces élèves qui viennent le matin, qui viennent à midi, qui quittent à midi et qui quittent le soir. Alors, comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Puisque vous avez dit que vous avez vous-même été dans les écoles, mais alors, quelle est la solution que vous préconisez? C'est ma dernière question.
Merci beaucoup, Mme Nathalie. Il y a beaucoup de solutions. Dans un premier temps, c'est comme on a dit, disposer des infrastructures qui sécurisent, c'est-à-dire quand il y a la construction de la route, aux abords des écoles, il faut que les panneaux écoliers soient implantés partout, de part et d'autre. Deuxièmement, il faut faire le marquage au sol, c'est-à-dire faire le traçage de marques routières pour faire traverser tous les enfants. Troisièmement, il faudrait nécessairement que les enfants apprennent. Donc, la Commission nationale de prévention routière, je lance ici un appel à toutes les autorités qui dirigent les écoles, tant privées qu'officielles, de pouvoir accepter les agents de la CENTER qui sont aujourd'hui en train de donner ou encore gratuitement le cours du code de l'écolier pendant la récréation, juste pour que les enfants puissent avoir ces notions, comment traverser, même si maman ou papa sont empêchés.
Ou carrément inclure une heure du cours
du
code de la route.
Donc, en principe, c'est la loi. Donc, toutes les écoles doivent, en principe, dispenser ce cours du code de l'écolier. Mm-hmm. C'est pour tous ces préfets qui, peut-être, n'ont jamais vu cela, nous leur demandons de passer à la Commission nationale de prévention routière. Nous leur donnerons gratuitement ces syllabus pour qu'ils puissent aider nos enfants à connaître comment traverser, comment respecter, comment éviter, par exemple, un accident. Donc, ça, c'est la plus grande chose. Quand quelqu'un connaît, il peut pratiquer facilement.
Tout à fait.
Et l'avant-dernière solution, il faut nécessairement que la police puisse aider tout le monde, puisse aider toutes les écoles, pas seulement les écoles qui sont nanties, où on doit implanter. Et là, je demande donc à la police de pouvoir implanter dans toutes les grandes écoles qui jonchent les grandes artères, disons la police spéciale de roulage, pour réguler pendant les heures de sortie et d'entrée des écoles. Et en fin de compte, il faudrait nécessairement que nous puissions, nous tous, nous impliquer dans le transport en commun. Aujourd'hui, il y a la société de transport de l'État, STUC, nous demandons à ces autorités de pouvoir...
Qui est son état expérimental.
Oui, effectivement. Nous demandons à ces autorités, que nous connaissons très bien, que nous sommes dans le même ministère, de pouvoir réinstaurer le transport, le bus scolaire.
Tout à fait.
Et là, quand il y a un bus scolaire, les enfants entrent facilement et on peut les déposer aussi facilement et les récupérer facilement. Okay. Et là, je crois que c'est une des grandes solutions pour les enfants qui étudient loin. J'ai entendu ce papa, les parents qui quittent la Cité Verte pour faire étudier leurs enfants au lycée Bossangani. Mmh. C'est vraiment un calvaire, mais il faudrait nécessairement que le bus scolaire reprenne pour que nos enfants soient aussi en sécurité.
Monsieur Vaminga, merci.
Merci, Maman Nicole.
Nathalie.
Maman Nathalie.
Hugues Golombili, monsieur le maire. Et on couche qui s'allonge par le feu. Il garde les sauts.
Si quand on connaît au Colomba, on a si mal il n'a yo, on a libala.
Allons, mon
corps. Si quand on va courir, on a si mal il n'a yo.
Thank you.